Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers fidèles, une messe d'action de grâce, c'est un peu un pléonasme. Car la messe intègre bien dans son essence même une dimension eucharistique, c'est-à-dire d'action de grâce. Elle n'est pas qu'une simple action de grâce, bien sûr, elle est aussi et surtout un sacrifice, le sacrifice, ce sacrifice qui offre à Dieu une gratitude particulière. Mais n'oublions pas, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit. Il prit le vin, il rendit grâce, il le bénit. Il rendit grâce. Selon le récit de l'institution que le prêtre dira, réalisera tout à l'heure au moment de la consécration. Après cette année passée parmi vous, il me faut alors rendre grâce particulièrement, ajouter une action de grâce particulière à cette action de grâce de la messe. Exprimer au Seigneur, aux confrères ainsi qu'aux fidèles, ma profonde reconnaissance. 7 ans. 7 ans, le chiffre est symbolique. Espérons que ce temps est plus penché du côté des 7 dons du Saint-Esprit ou des 7 sacrements que des 7 péchés capitaux, et la remarque est pour ma pomme. 7 ans sont passés vite, très vite. Ce n'est peut-être pas la même impression pour vous, chers fidèles, mais l'arrivée en septembre 2014 me semble encore si proche dans le temps. Certes, chaque prêtre a son style, et il peut parfois se faire de raconter de ce genre de circonstances une anecdote particulière ou personnelle, un événement marquant, une rencontre touchante ou autre. C'est vrai. C'est vrai. Mais un conseil simple et très concret, nous avait été donné lors de notre rentrée au séminaire. Au cours de la retraite de rentrée, ne jamais employer la première personne du singulier en homélie. C'était un juste conseil, pas une obligation, mais un conseil très, très sage, très prudent. L'homélie, en effet, est plus faite pour parler du bon Dieu et de ses mystères que pour parler de soi. Vous voyez, on dit cela. Mais en disant cela, le prédicateur vient de vous livrer une anecdote d'expérience personnelle. En tout cas, nous réserverons un article dans le bulletin paroissial pour le côté mavie.com. Il ne faut pas trop s'étaler sur sa vie en homélie. Entre le narcissisme et la fausse modestie, il faut simplement trouver la bonne mesure et aborder les choses avec simplicité. En attendant, pour ce qui est de l'homélie, concentrons-nous sur le prêtre, et le prêtre par excellence, qui s'appelle Jésus-Christ. Oui, le Christ demeure tandis que le monde tourne. Les hommes passent alors que lui reste le rocher inébranlable au centre de notre vie et de notre foi. Les hommes passent, les prêtres passent, mais lui est toujours là. Les hommes ont leurs limites, leurs misères, alors que lui est sans péché, il est l'agneau innocent, le vrai rédempteur, vainqueur sur le mal. Même si aujourd'hui, chers fidèles, nous ne scrutons pas spécialement les textes propres de cette messe, parler du sacerdoce ne semble pas déplacé, au contraire. Bien souvent, chers fidèles, nous avons une attitude très humaine, un peu superficielle, un peu enfantine, qui s'arrête au style du prêtre, à son humanité à lui, à sa façon de se tenir, à son ton de voix, à son verbe, qu'il soit soutenu, populaire ou pauvre, à son rythme lorsqu'il parle ou qu'il célèbre la messe, à l'usure de sa soutane ou à ses franges s'il en a, à son côté expressif ou à sa timidité, à ses idées, ses convictions, farfelues ou non, à son côté plus ou moins progressiste ou plus ou moins tradi, à son genre abbé de salon ou homme de rue, à sa carrure ou à son âge, à sa bonhomie ou à son ascèse apparente, à ses goûts classico-classiques ou à son originalité. Et même, on va regarder s'il passe bien, comme on dit, avec telle catégorie de personnes, les jeunes, les scouts, les plus âgés, les enfants, les personnes malades, les quarantenaires, les notables ou les sans-abri. Avec toujours ce danger d'enfermer le prêtre dans un style, de lui donner une étiquette, souvent de façon trop rapide et bien sûr réductrice. Et puis nous aurons notre avis sur ce prêtre, nous accrocherons ou nous n'accrocherons pas. Bien sûr, nous avons le droit d'avoir notre avis, d'accrocher ou non. Pour avoir déjà prêché sur ce sujet, il semble bon d'en rajouter une couche aujourd'hui, avant de partir, parce que c'est important. Bref, il semble que le prêtre, homme public, devra subir cette épreuve d'être regardé par les gens, d'être surveillé, d'être jugé sans doute, parfois avec exigence, ou parfois, très dangereux, d'être flatté d'une façon démesurée. Mais Dieu est le seul juge, ne l'oublions pas. « Mon juge, c'est le Seigneur », dit saint Paul aux Corinthiens. Et sachons dépasser ces apparats, ces extériorités du prêtre, pour regarder l'essentiel. Oui, laissons un peu cela de côté. Avoir un regard moins superficiel et plus surnaturel. Saint Jean de la Croix écrivait qu'il ne fallait pas s'arrêter au contour métallique du calice, mais contempler l'or qui se trouve à l'intérieur. Alors, entrons en profondeur et sachons contempler le prêtre par excellence, né à Bethléem de Judée et mort sur le Golgotha à Jérusalem vers l'an 33. C'est cet homme qui a fondé l'Église, cet homme qui viendra sur l'autel tout à l'heure, cet homme qui agit dans le sacrement, cet homme qui transmet la grâce, cet homme qui est aussi Dieu. Tout vient de lui. Et les mystères qu'il a transmis à ses apôtres et à ses ministres sacrés ne sont pas les propriétés personnelles de ces derniers, car on ne s'approprie pas les dons de Dieu. Un confrère prêtre, un jour, disait du sacerdoce, « C'est un mystère que l'on ne possède pas. » Eh bien, c'est très vrai. Comme le prêtre n'est pas prêtre pour lui, son ministère ne lui appartient pas, et le sacerdoce dont il est revêtu n'est pas son sacerdoce, mais celui du Christ. Car il n'y a qu'un seul sacerdoce. Quant à la vocation, l'appel du Seigneur à le suivre sur cette voie formidable, nous devons nous rappeler que nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir d'une telle faveur, parce que justement, elle ne vient pas de nous. C'est ce qu'écrivait saint Norbert dans sa magnifique méditation au prêtre qui es-tu. Ô prêtre, qu'es-tu donc ? Tu n'es pas à toi, puisque tu es le serviteur et le ministre du Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes. Tu ne t'appartiens pas, puisque tu es l'époux de l'Église. » Sans donner toute la méditation, il termine par cet avertissement. « Prends garde qu'on ne dise de toi ce que l'on disait du Christ sur la croix. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Mes frères, en cette période d'ordination sacerdotale, autour de la fête des saints apôtres Pierre et Paul, bénissons le ciel pour ces générations de prêtres qui se suivent et qui représentent le même Christ et qui participent au même sacerdoce. C'est l'occasion de saluer ces nouveaux confrères du même sacerdoce et quelle que soit leur sensibilité dans l'Église, quelle que soit la couleur de leur robe, s'ils en ont une. Et puis, n'oublions pas non plus les séminaristes, nos jeunes frères séminaristes qui se préparent dans la discrétion de leur maison de formation, que l'Esprit-Saint les éclaire dans leur discernement. Les prêtres ne doivent pas oublier leur berceau, ne jamais oublier qu'ils ont été séminaristes, car c'est leur crèche, la crèche de ce sacerdoce dont ils sont revêtus, et l'on n'oublie pas d'où l'on vient. Le bienheureux Antoine Chevrier méditait sur le lien entre la crèche et la croix. Le séminaire est la crèche, et le sacerdoce est vu comme la croix. Il faut bien l'avouer, le chemin du sacerdoce n'est certes pas un chemin facile, mais il est extraordinaire. Le sacerdoce est un grand mystère, une grande grâce, et les hommes qui y sont élevés ne peuvent que louer infiniment Dieu d'avoir placé un tel trésor au fond de leur âme, au fond de leur cœur. Alors, pour finir, Dieu soit béni, et vous aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.